Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai une invitée, Léna Rufflin, et avec elle, on va parler Atelier Philo. Bienvenue à tous sur le podcast Libre pour apprendre, qui s'adresse à toute personne désireuse de comprendre comment un enfant peut apprendre quand il n'y a pas de programme imposé ni d'évaluation notée.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une amie à moi qui est Léna Rufflin. Donc Léna, je l'ai connue dans mon travail et puis aussi dans ma formation d'enseignante spécialisée. C'est quelqu'un de très joyeux et vivant et puis je me réjouis de faire cet entretien avec elle. Donc elle, sa spécialité, entre autres, c'est les ateliers philosophiques. Alors, les ateliers philosophiques, c'est quelque chose d'un peu différent que peut-être la philosophie qu'on voit à l'école, qui se voit plutôt au niveau du lycée, où on apprend à connaître les philosophes et en quoi ils ont contribué à améliorer la pensée. Mais on n'apprend pas nécessairement nous-mêmes à philosopher. Alors, ce qu'apporte Léna et en quoi elle contribue, c'est justement de pouvoir permettre aux enfants d'apprendre comment on philosophe. Alors, je lui propose de se présenter et puis de vous en dire un petit peu plus.
Merci beaucoup, Gypsy. Donc oui, je m'appelle Léna Rufflin, je suis institutrice, enseignante spécialisée et animatrice en atelier philosophique avec les enfants et aussi avec des adultes. J'ai commencé à m'intéresser aux ateliers philosophiques dans le cadre de mon travail de master qu'on a dû faire pour la pédagogie spécialisée. Je les ai commencé à les mettre en place en fait avec les jeunes en situation de handicap. Et en approfondissant ce thème, j'ai vraiment voulu continuer et ça fait bientôt 4 ans que je suis cette aventure avec beaucoup d'enthousiasme.
Et alors les buts qui sont que tu vises un peu à travers les ateliers philosophiques, ce serait quoi ?
Alors les ateliers philosophiques, en fait, ils répondent à énormément de buts. Le premier, c'est de renforcer ce qu'on appelle les habiletés de pensée. Et pour ça, en fait, on essaye de renforcer ce que Lippmann propose comme définition les 3 types de pensée qui sont la pensée critique, la pensée créatrice et la pensée attentive. La pensée critique, en fait, elle se définit par une pensée qui va définir des mots, des concepts, comme par exemple la liberté, sur des critères. Ensuite, elle va tenir en compte le contexte. Et puis, enfin, elle est autocorrectrice. Donc, définir des critères pour pouvoir donner une définition, ça me semble essentiel, en fait, pour pouvoir garder une certaine évolution de pensée, en fait.
Donc, ça veut dire quoi, définir des critères concrètement ?
C'est par exemple, si on se pose la question, c'est quoi un animal, par exemple, c'est quoi la... Parce qu'un chat et une huître sont les deux des animaux, et pourtant, un a 4 pattes et l'autre n'en a pas. Donc en fait, on va définir en fait les critères des êtres qu'on considère comme des animaux. Donc on va sortir un peu du commun ou de ce qui est une évidence pour nous, et on va aller chercher en fait véritablement la liste en fait de ce qui fait... ce qui donne la définition des mots.
Ok, il peut y avoir aussi des concepts un peu plus abstraits ?
Oui, il y a beaucoup de concepts abstraits, comme par exemple le bonheur, la liberté, l'art, l'état, l'argent, les animaux. En fait, c'est là qu'est la beauté aussi de cette discipline, c'est que apprendre à philosopher, c'est aborder tous les thèmes en fait, qu'on veut.
Mm-hmm. Et dans ces objectifs, donc tu peux aussi nous expliquer un petit peu plus concrètement à travers chaque objectif ce que l'enfant peut développer.
Il peut développer aussi d'être meilleur en fait à donner des exemples ou ce qu'on appelle des contre-exemples. Le ciel est bleu et pourtant à certains moments on a tous vu un ciel orange ou gris. Voilà, c'est deux exemples très différents. Il va gagner aussi à argumenter, à émettre des hypothèses. Et puis, dans la pensée créatrice, en tout cas, il y a aussi le fait d'émettre des hypothèses qui sortent du sens commun. Cette pensée, il y a la pensée aussi dite attentive, c'est le fait de pouvoir écouter l'autre et prendre en considération le collectif. Ce qui me plaît aussi dans les ateliers philosophiques, c'est qu'on ne pense pas seul, c'est qu'on pense en collectif. On va aller confronter un peu nos idées à l'autre.
Ce qui fait peut-être, tu me disais tout à l'heure, ouais, un enfant qui dit que le ciel est bleu, c'est la première idée qui lui vient, puis il peut rester figé sur cette idée. Mais en même temps, si d'autres commencent à expliquer que ben, parfois il est rouge, ou ça peut faire évoluer. Puis tu me disais que c'était aussi important le fait qu'on puisse évoluer dans sa pensée.
Oui, c'est là qu'est aussi, c'est important de continuer d'évoluer dans notre pensée, dans notre manière de percevoir et interpréter le monde.
Ok. Et donc, comment ça se pratique exactement?
Alors, il existe différentes méthodes. Moi, je me certifie donc avec l'association SEV, qui veut dire savoir être et vivre ensemble. C'est une méthode qui part d'abord d'une pratique de l'attention, un retour de cette pratique. Ensuite, il va y avoir différentes étapes.
Alors, la pratique de l'attention, peut-être, tu peux nous en dire davantage?
Alors, la pratique de l'attention, c'est véritablement un petit peu muscler notre cerveau à utiliser volontairement son attention. Si par exemple, là je vous propose de penser à votre orteil gauche, votre cerveau va normalement porter son attention sur votre orteil gauche, à savoir s'il est bien au chaud dans ses baskets ou s'il sent le vent sur lui ou le sol plutôt dur ou voilà, différent en fonction de votre contexte du moment. Et donc la pratique de l'attention permet en fait de volontairement demander au cerveau de diriger son attention quelque part. J'adore l'idée de la lampe de poche. C'est comme si en fait vous étiez une grande lumière et que d'un coup vous décidez de poser la lumière sur quelque chose de très particulier, comme une lampe de poche qui va aller poser la lumière sur un endroit bien précis.
Et là, quand tu donnes l'exemple de l'orteil, par exemple, c'est vraiment d'arriver à percevoir au niveau sensoriel les choses?
En tout cas, d'être le plus ici et maintenant, et de porter attention, d'être en présence de ce qui se passe actuellement. Alors oui, bien sûr, on porte notre attention, en tout cas, on fait l'exercice avec notre corps, notre respiration, parce que ce sont des choses qui nous accompagnent tout le temps.
Ok. Et en quoi c'est peut-être important d'avoir son cerveau qui est plus connecté à quelque chose de présent comme ça, pour pouvoir après passer à une discussion philosophique?
Alors, je ne suis pas neuroscientifique, en tout cas, moi je le crois.
Ok, mais ça permet d'être plus attentif, d'être plus présent, c'est ça qui est visé en fait?
C'est ça, c'est d'être le plus possible ici et maintenant, parce que ben oui, quand on arrive à un atelier philosophique, par exemple, je pense aux adultes, je les ai proposés le vendredi soir, ben ils viennent avec leur semaine en fait avec eux, donc ils pensent, ah ouais, puis ce week-end je dois faire ci et ça, en fait ils arrivent, et d'avoir ce moment de transition en fait pour eux, d'être pleinement là avec, à savoir comment ils se sentent à ce moment-là, ben ça permet véritablement d'aller reposer, d'être dans l'ici et maintenant en fait.
Ok. Et après, comment ça se déroule l'atelier exactement? Comment est-ce qu'on entame une discussion? Ça se passe comment?
Alors, on choisit un thème, ou alors le thème a été choisi ultérieurement.
Qui c'est qui choisit en fait?
Alors, avec les enfants, ça peut être l'enseignant ou l'enseignante qui peut me proposer un thème qu'il aimerait bien que ses élèves travaillent. Ça peut être aussi les élèves directement. Moi, je leur propose différents thèmes. Et puis après, c'est eux qui choisissent. Ou je fais la même chose avec les adultes en fait, souvent sur le moment, genre leur en propose deux ou trois et c'est eux qui choisissent.
Et le choix, il s'opère comment?
Par vote, en fait, les participants votent le sujet qu'ils voudraient discuter à ce moment-là.
Ok. Et après avoir choisi le sujet?
Alors là, on a une formulation de questions. Et c'est un vrai travail parce que une question philosophique, c'est pas une question factuelle, c'est pas une question scientifique.
C'est quoi une question philosophique en fait?
Alors une question philosophique, c'est une question qui est universelle. En fait, par exemple, dois-je dire la vérité? Même si je parle en jeu, en fait, c'est une question en fait que tous les hommes peuvent se poser. Donc elle est universelle. Ensuite, c'est une question qui va demander une pluralité de points de vue. C'est pas une question qu'on va répondre facilement oui ou non. Bien que, si par exemple dans le cas suivant, dois-je dire toujours la vérité, bien sûr, on a une première réponse qui nous vient un peu spontanément. Et avec le temps, en fait, on sent qu'il y a des nuances qui se créent, il y a quelque chose qui dit « Ah ouais, mais en fait, peut-être que dans cette situation-là, est-ce que je devrais dire la vérité ou pas ?» etc. Et la dernière chose, en fait, c'est qu'elle est, elle va discuter de une ou deux notions, en fait, bien précises, en fait. Comme là, dois-je dire la vérité ? C'est une question éthique. Dois-je toujours dire la vérité ? C'est une question éthique. Donc morale, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Et puis, à savoir, la notion qui sera beaucoup discutée, c'est la vérité.
Ok. Et après, quand le choix... comment se fait le choix ?
Après la formulation, donc du coup, il y a le choix. De nouveau, les participants, en fait, participent à un vote. Et puis, c'est hyper important aussi que l'animateur... valorise toutes les questions qui ont été formulées parce qu'elles répondent en fait à un intérêt du participant ou de la participante. Et puis aussi de dire par exemple que dans le cas de la vérité, la question « dois-je toujours dire la vérité ?» et si quelqu'un avait la question « c'est quoi la vérité ?» en fait la question « c'est quoi la vérité ?» on va forcément en parler dans la deuxième question. Donc aussi émettre des liens et puis d'expliquer en fait que certaines questions seront peut-être directement discutées, c'est aussi important.
Ok, une fois que le choix de la discussion est posé, comment ça s'anime, comment ça s'organise, comment les gens prennent la parole ?
Alors ce que j'apprécie beaucoup dans les ateliers philosophiques, que ce soit avec les enfants qu'avec les adultes, c'est que tout support peut être apporté, aussi bien un texte, un conte, un album, aussi des images. Les images parlent beaucoup, aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et là, en fait, on peut faire un petit peu un exercice de pensée avant de directement entamer la discussion. Ça, c'est possible. Ou directement entamer la discussion avec cette question de départ. Et puis c'est vrai que d'abord c'est important de définir en fait pour pouvoir voir un peu les représentations de chacun, et puis après cette définition on peut aller encore plus loin.
Ok, et après quand les idées ont un peu évolué, ça va durer combien de temps en fait un atelier philosophique?
Ça dépend le groupe, ça dépend l'énergie du moment, et ça dépend surtout de l'âge des enfants. C'est-à-dire qu'un atelier à l'école enfantine ou école maternelle est proposé à des adolescents, c'est clair qu'il n'y a pas le même temps.
C'est en fonction de la capacité de l'enfant, sa concentration, tout ça.
Exactement, oui. Il y a vraiment un temps. On n'est pas égaux déjà là-dessus, et encore plus quand on est petit. Je pense que, plus on est jeune, je vais dire ça comme ça, on a une capacité peut-être de 10 minutes, un quart d'heure, alors que des adolescents, on peut leur demander une discussion de 30 minutes.
Ok. Et comment ça se clôture alors, une fois que...
On fait un retour sur la discussion. L'animateur aussi essaye de synthétiser en fait tout ce qui a été dit à ce moment-là, les arguments qui ont été mis en avant, s'il y a eu des distinctions, des nuances, des comparaisons, s'il y a eu des exemples aussi pertinents. Et puis à la fin, du coup, on essaye de savoir si pour les participants si ça s'est bien passé ou pas.
Ok. Merci. Puis, est-ce que tu peux nous illustrer un petit peu des moments forts, peut-être que tu as eu vécu dans les classes avec des enfants, où tu as vu émerger vraiment cette pensée philosophique, où il y avait vraiment quelque chose d'intéressant qui émergeait?
Alors, j'aurais deux anecdotes à donner. La première, c'est avec un groupe de restreints, d'adolescents, où c'est qu'un adolescent s'était posé la question, en fait, si une interprète qui chantait une chanson et qui devenait célèbre, était-elle aussi artiste que lui, qui faisait en fait un instrument de fanfare depuis 10 ans. Et j'avais trouvé ça assez touchant, parce qu'il y avait vraiment du sens à la question pour lui. Et les autres, en fait, ont pu dire qu'il y avait l'idée de critères, l'idée de... c'est quoi un artiste C'était ça, en fait, le fond de sa question. Et donc, aussi de pouvoir faire... de se sentir aussi, lui, peut-être artiste, en fait. Donc, c'était vraiment approprier la philosophie dans sa propre vie. Et puis, la deuxième anecdote qui me vient, C'est dans une classe assez difficile. Un élève en particulier qui était connu pour plutôt briller par tout ce qu'il ne fallait pas faire, a donné une définition, en tout cas une distinction entre vieillir et grandir. Et en fait, il a expliqué que vieillir, pour lui, c'était quand le corps changeait, mais pas forcément la tête, alors que grandir, c'était quand la tête changeait, mais pas forcément le corps. Et là, l'enseignante, en fait, a pu voir cet élève de manière différente, et je pense aussi que ses camarades, en fait, l'ont vu différemment, même si certains, probablement, n'ont pas compris la distinction qu'il avait faite.
Ouais, donc vraiment des questions profondes qui émergeaient là.
Oui, ouais. Dans les deux cas, pour moi, il y a cette profondeur et en même temps le fait qu'ils s'approprient en fait les concepts à leur manière.
Donc ça faisait quelques fois que tu avais déjà animé ces ateliers pour qu'ils arrivent à ce type de réflexion.
Alors avec le groupe d'adolescents, oui, ça faisait à peu près le 9e ou 10e atelier que je mettais en place. Et pour à l'école primaire, là actuellement, je propose des séries de 4 ateliers. Et puis ensuite, c'est vraiment une présentation que je fais et puis de donner envie en fait aux enseignantes et aux enseignants en fait après s'ils ont envie de poursuivre par eux-mêmes.
Ok. Donc, ils suivent avec toi l'atelier, les enseignants, puis comme ça, ils s'imprègnent aussi de cette pratique.
Oui, 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 et surtout, c'est les garants du cadre. et ça, c'est important. Et qu'ils voient aussi que les adultes ont cette attitude d'être là ou d'être à l'écoute. C'est très important pour les enfants.
Ok, donc là, tu nous dis que tu proposes des ateliers sur des séries de 4, ou je ne sais pas si tu as d'autres propositions. Puis à ce moment-là, est-ce qu'on peut te contacter? Dans quelle région? Enfin, qu'est-ce que tu as proposé? Tu peux en parler?
Alors, je propose aux écoles, de manière bénévole, 4 séries donc, d'ateliers. C'est plutôt le mardi, mon jour de congé. Et puis, ça, c'est sur le Jura suisse. Et puis sinon, je propose aussi des ateliers à faire une fois ou sur plusieurs fois avec des adultes ou des groupes d'enfants intergénérationnels aussi. J'ai fait dernièrement un groupe avec la plus jeune participante avait 12 ans et le plus âgé avait, je crois, 74. Et on a philosophé sur le jeu. Et là, j'ai pas vu de différence d'âge, en tout cas, et les arguments de chacun était magnifique. Donc là, je peux proposer à des adultes s'ils ont un groupe de personnes où ils auraient envie de réfléchir ensemble, je propose volontiers mes services.
Extra, merci. Alors en lien de cet épisode, en fait, on mettra tes coordonnées pour qu'on puisse te contacter. Je te remercie beaucoup pour cette interview très riche. Et puis, j'espère qu'on se retrouve pour la suite, mais peut-être une prochaine fois.
Avec grand plaisir. En tout cas, merci pour ce que tu fais. Et c'est toujours chouette de partager avec toi.
Extra. Merci à tous. À bientôt.
Merci. Au revoir.